Voilà donc à l'instant les Black Lips, extrait de leur dernier album Underneath the Rainbow, et tout de suite donc le Theta Lab. Bonjour messieurs.
Bonjour. Bienvenue sur le beat et le couteau du Theta Lab. L'émission pour la famille, faite en famille, cette semaine avec Sacha qui est là, Alex, Rep et Florent, et on a quelqu'un qui se cache derrière la porte là. Donc comme d'habitude, là on commence un petit peu en retard, mais à la limite c'est pas plus mal.
On est désolé, hein, mais ouais, Christophe ouais, Lemaire est très bavard, voilà.
Ouais, mais c'est pas bien grave. On fait comme d'hab, hein, actu, ouais. Dossier, complot, musique.
Un peu de lecture cette fois-ci.
Un peu de lecture. On commence actu, filet.
Le générique, on l'a pas eu le générique.
On l'a pas eu le générique. Ah bah attends, on va mettre le générique alors. Donc aujourd'hui, le générique, c'était le chant de la comète.
Voilà.
D'ailleurs, comment elle s'appelle cette comète? Parce que je l'ai vue.
Tucci,
après
P67P.
Ouais, elle a été découverte par un couple de Russes, j'ai vu ça. Et donc, on a un satellite qui s'est posé dessus. Non, pas un satellite, si. Un satellite, on appelle ça un satellite.
Il y a un satellite qui tourne autour et qui a déposé un petit robot dessus hier.
D'accord. J'essaie de redémarrer mon ordinateur sous Windows, mais j'ai des mises à jour en pagaille, comme d'habitude, toujours au bon moment. Ouais. Et surtout, il fallait consulter le compte Twitter officiel,
voilà,
qui est
Philea
2014. Philea 2014, où il y a vraiment des infos.
LEA 2014, où il y a vraiment des infos sur toutes les conspirations qui tourne autour de la comète.
D'accord.
Et si vous voulez retrouver les liens, c'est sur canalsud.tetalab.org où on partage tous ces liens dont on va parler pendant l'émission.
Ça, c'est le compte officiel Twitter, c'est ça?
C'est le compte officiel, okay. Philea Tetalab dans l'espace.
Ok.
Et ouais, j'ai vu qu'en fait, la fusée qu'ils ont balancée pour l'envoyer sur la comète, le satellite, ils l'avaient envoyé en 2004, quoi. J'ai trouvé ça dingue.
Moi, je m'en rappelle, je crois, en 2004, quand il l'avait balancé.
Ouais.
Depuis
ouais, ça fait 10 ans.
Ariane.
Ouais. Parce qu'il devait choper à la base une autre comète, mais ils ont raté le pas de tir. Et donc, ils en ont pris une autre. Je suis bien emmerdé, tu peux avancer là? Parce que moi, mon ordi.
J'ai un texte à lire, du coup, je vais le lire en plusieurs versions. En plusieurs.
Ouais. Ou sinon,
segments.
J'entends. Attends, parce que moi, après, il faut que j'aille travailler.
Ok.
Non, attends, vas-y, rendez-moi.
Hop. C'est parti.
Ouais, moi
j'ai été.
Ah oui, moi j'avais en fait que des sujets super légers et enfin quoi que. Déjà, je voulais parler de Thor, mais surtout pas en fait du réseau Thor, mais du marteau de Thor, parce que c'est super important dans les Marvel Comics. Si vous l'avez vu Thor ou le film ou lu la BD, il a un marteau, comme le célèbre marteau de Thor, que en fait personne ne peut soulever. Sauf lui. Et en fait, la légende dans le comics dit que seules les personnes dignes peuvent soulever le marteau de Thor. Et en fait, là, il a apparu un teaser du nouveau film The Avenger où ils s'amusent à essayer tous de soulever le marteau de Thor et forcément, personne n'y arrive. Et en fait, il y a des scientifiques qui se sont posés sur la question de la possibilité physique qu'on puisse ne pas soulever ce marteau. Et en fait, ce marteau, il est fait en Uru, qui est un métal imaginaire qui est forgé par les Argoniens dans les restes d'une étoile naine, ou enfin je sais plus quoi. Et en fait, dans le premier Thor, il y a le père de Thor, qui doit être Zeus, je suppose, qui envoie le marteau sur Terre en disant seule une personne digne pourra soulever ce marteau. Et là, il y a Thor, il revient sur Terre, blablabla. Et en fait, physiquement, il serait possible en fait de ne pas pouvoir soulever ce marteau s'il était en fait constitué, qu'il avait une masse critique énorme par exemple la masse d'une super étoile. Mais bon, dans ce cas-là, dans le film, il est posé sur une table basse, la table basse, elle ne supporterait pas le poids. Et c'est là, en fait, où on peut rentrer dans quelque chose d'assez de quantique. C'est que, bon, il y a la physique quantique et la physique newtonienne, et ils essaient d'assembler les deux lois physiques, quoi. Et là, il y a la matière noire, ce qu'on appelle la matière noire, et il y aurait un concept de ce qu'on appelle le gravitron. Gravitron, en fait, c'est un support de la gravitation. C'est comme prendre un exemple d'une fronde. Ben, le gravitron serait la corde, en fait, qui tiendrait la pierre, quoi. Tu vois, ça envoie la pierre.
Oui, c'est la particule, c'est la gravité.
Voilà. Mais bon, ça, personne, c'est juste un concept, personne ne l'a jamais trouvé. Donc, en fait, ce marteau, dans ce métal heureux, permettrait, en fait, d'avoir un changement de gravitation. Et donc, la masse de ce marteau pourrait être plus ou moins lourde, suivant qui attrape le marteau, grâce à un capteur biométrique situé dans le manche du marteau.
Ok.
Voilà, tu vois.
D'accord.
Et voilà, c'était le petit truc un peu naze, j'ai bien l'impression, mais tu peux le dire.
Non, mais tort, ouais.
Non, mais après tu parleras de l'orgone, et puis...
Oui, voilà, c'est ça, moi, je crois que...
Alors, ouais, autre news pourrie. Oui, aussi, il y avait dans le film, comment ça s'appelle, L'Hobbit, tu sais, qui rentre
en dernier
là.
Ouais.
Et il y a Smaug, le dragon, dans le bouquin, il le tue avec une flèche noire. Et à l'aide d'un arc.
Là, tu vas spoiler le Hobbit 3, c'est ça là ?
Ah non, mais attends, on connaît tous l'histoire. Il meurt, il gagne, il rentre chez lui, tout le monde est content. Et donc,
je sais pas, mes enfants, ils l'ont pas vu.
Eh ben, ils écoutent la radio là ?
Bah, j'espère pas.
Ouais, j'espère pas. Les enfants, bouchez-vous les oreilles. Donc, en fait, il lance une flèche dans le bouquin à l'aide d'un arc qui tue ce dragon. Et dans le film, en fait, il y a une immense arbalète. Je ne sais plus comment on appelle ça, une grosse arbalète sur un pied. Et un gars, il s'est amusé à calculer si c'était possible physiquement de tuer un dragon avec cette flèche. Donc déjà, il a pris la taille de la flèche. Donc déjà, il est parti sur le film, pas sur le livre avec l'arc. Donc il a calculé par rapport à la taille des acteurs, la taille de la flèche. Donc elle fait à peu près 1m90. Il a calculé qu'elle était à peu près en acier. La taille, la masse de cette flèche en acier. Et il en arrivait au résultat qu'en fait, tirée depuis une tour de 15 mètres dans le film, la flèche devrait parcourir 30 mètres. Donc 30 mètres avant de toucher le sol à 15 mètres de haut, tu tues pas un dragon. Et en fait, la vitesse de cette flèche est 30 mètres par seconde. Et quand tu tires avec un arc, en général, c'est 100 mètres par seconde. Voilà, donc en fait, le film, il est pas... Tu vois, on pourrait se dire. Et en fait, il arrive à la conclusion que 30 mètres par seconde, ça correspond... c'est juste... super bien par rapport en fait au nombre d'images par seconde qu'on a dans les films, qui sont à peu près de 0, de 33 images par seconde. Donc maintenant, avec le numérique, tout ça, normalement c'est à peu près, c'était 25 images par seconde, maintenant on est plus vers les côtés 30-33. Et que en fait, si la flèche allait plus vite dans le film, et ben on la verrait pas, en fait. Et donc c'est tout cinématographique, et les mecs ont calculé ça dans un film, et moi je trouve ça beau, quoi. Voilà. Mais bon, le dragon, il devrait pas mourir, donc du coup voilà. C'était encore une info pourrie.
Non, j'étais pas au courant de cette histoire
Allez, je t'envoie une encore plus pourrie.
La grosse arbalète.
On a toujours dit que la muraille de Chine était le seul monument visible de l'espace. Et ben c'est faux. Je te jure, c'est faux, en fait. Parce que la muraille de Chine, elle est pas plus large qu'une autoroute, en fait. Et donc c'est impossible de la voir. Et il y a même le premier astronaute chinois qui est monté là-haut, et il a dit à tous les Chinois, il a dit, c'est pas possible qu'on puisse voir la muraille de Chine. Et il a dû se faire un peu lyncher quand même en revenant. Voilà, moi c'était mes infos pourries.
Il y avait eu des photos, mais par satellite, quoi. Enfin, des clichés.
Qui faisaient un zoom.
Oui, voilà, c'est ça.
Ah si, j'avais une autre info pourrie pour démystifier l'effet Coriolis. Tu vois ce que c'est, l'effet Coriolis,
La force de Coriolis.
La force de Coriolis, c'est quand vous videz l'eau dans les toilettes ou dans le lavabo, l'eau tombe dans un certain sens. Et moi, je me suis toujours dit, ouais, j'ai trop envie d'aller en Australie, de tirer la chasse d'eau pour voir que ça tourne dans l'autre sens, quoi. Mais en fait, c'est faux. L'effet de Coriolis n'a aucun effet sur l'eau des toilettes. C'est un effet beaucoup plus global, tu vois, comme la lune qui a un effet sur l'eau des océans. Tu vois, dans la mer Méditerranée, il y a tellement peu d'eau qu'on n'a pas cet effet de marée. Ben, l'effet Coriolis, c'est pareil. Il n'a pas un effet sur une toute si petit truc. Et en fait, ça se expliquerait plus par la conception même des toilettes qui serait différente en Australie, dans l'hémisphère sud et dans l'hémisphère nord. Voilà. Tu l'aimes bien, ça, là, quand même, comme news. On pourra la ressortir à un repas.
Voilà. On attend que quelqu'un aille dans l'hémisphère sud pour voir un peu ce que ça donne, si les toilettes sont vraiment différentes.
Ouais, mais si t'es chez toi, en fait, et que l'eau tourne dans un certain sens et que tu vas chez ton voisin, tu vas pas aller voir chez ton voisin dans quel sens tourne l'eau. Donc si tu arrives en Australie, tu tires les toilettes, tu fais « Ah, elle tourne dans l'autre sens », tu vois. Ça, voilà.
Ouais. J'étais au Brésil et j'ai jamais vérifié.
T'as jamais vérifié non. Ça ?
Et je m'en veux un peu à mort.
C'était quoi la vidéo sur le transhumanisme ?
Ah ouais, ça c'est Alain Damasio, un auteur de science-fiction, et c'est une super vidéo en fait où il explique actuellement il y a le transhumanisme, c'est en fait
film avec Johnny Depp.
Pour résumer ça, qu'on devienne un peu des machines, c'est ça, tu vois. Et en fait, il explique très bien et c'est très bien expliqué.
C'est comment ? C'est pas exactement ça, mais c'est la modification de l'humain.
Ouais,
l'augmentation.
Par la technologie aussi, quoi.
Ah oui, par la technologie.
Voilà. Donc, en fait, actuellement, on est en plein dans le transhumanisme, mais en fait, sans s'en rendre compte, avec tout ce qui est smartphone.
C'est le propos de la vidéo, là,
Ouais, c'est le propos de la vidéo. Okay. C'est si tu prends un smartphone actuellement et que, mettons, demain, on te greffe quelque chose dans le bras et qui est plein de fonctions, qui capte ton pouls, qui capte ton emplacement, qui va te donner des infos, ton agenda, tout ça, et ben quelque part, tout le monde crierait « Ah là là, c'est horrible, machin et tout », mais actuellement, le smartphone, c'est exactement la même chose, sauf qu'on l'a au bout de la main, quoi. C'est un prolongement de nous, ce smartphone, mais qu'il soit au bout de notre main ou qu'il soit à l'intérieur de notre bras, quelque part, les fonctions sont exactement les mêmes.
Oui.
Et en fait, il explique que à vouloir être trop humain, à vouloir, pendant longtemps, pendant l'histoire, on a essayé, par la technologie, d'aller plus loin dans nos capacités physiques. Tu vois, avec l'agriculture, le tracteur, tout ça. Et maintenant, on essaie d'aller...
L'outil, enfin plus...
Ouais, d'aller plus loin, mais au niveau de notre mental et de notre réflexion. Est en train de céder tout ça à la technologie, par exemple...
Il y avait une bonne vidéo d'Alex à ce propos-là, qui n'est pas le transhumanisme, mais c'est « Human Need Not Apply ».
Ouais, après, c'est plus un autre débat. Mais là...
Mais c'est un peu...
Là, en fait, on cède toutes nos capacités à une machine, comme la capacité de se situer dans l'espace et de se guider, tu vois, avec les GPS. On y fait aveuglément confiance. Les gens qui vont courir, qui se mettent un portable et qui ont les pulsations cardiaques.
Le nombre de foulées.
Ils n'ont plus une notion de leur corps, de savoir comment notre corps réagit. Tout ça, quoi. Et en fait, à vouloir être trop humain, on en oublie d'être simplement humain et d'utiliser nos capacités sans vouloir forcément aller beaucoup plus loin, quoi.
Par rapport au transhumanisme, enfin, c'est la demeure du chaos, je crois, à Lyon. Vous connaissez ça ? La demeure du chaos.
C'était un centre d'art ou un
truc. Ouais, un gars. Donc c'est la demeure du chaos. Et j'ai oublié le nom du mec qui fait ça, qui tient le truc. Et en fait, c'est un mec qui a fait beaucoup de ronds en télématique avec le Minitel et ensuite sur le net. Je crois qu'en fait, il a un des plus gros sites de vente et d'enchères d'œuvres d'art.
Oui.
Et de cotes, en fait, de pièces, d'œuvres d'art. Donc j'imagine qu'il prend une com à chaque fois qu'il y a une vente ou un truc comme ça. Il a un système de cotes, en fait, d'œuvres d'art et de vente et de revente. Et donc il a monté la demeure du chaos. Et eux, ils sont super branchés performance, bio, modifications corporelles, ce genre de choses. Et voilà, donc eux, c'est, enfin, dans le domaine du champ de l'art contemporain, c'est, je pense que c'est une bonne référence pour la théorie, ce truc du transhumanisme, là, la demeure du chaos. Mais ce qu'il faut savoir, c'est toujours pareil. C'est-à-dire, je trouve que le discours est à double tranchant, en fait. C'est-à-dire que... je trouve qu'il y a une espèce de non-acceptation de la médiocrité.
Oui, mais c'est exactement ça.
Je trouve que c'est vraiment... Enfin, du coup, à la limite, je trouve que la démarche peut être plutôt pas mal. C'est-à-dire, comment on peut modifier un corps? Imaginons qu'on ait des tibias plus longs, je sais pas, on pourrait faire des foulées plus grandes, ou je sais pas, des bras plus longs, ou deux cœurs, ou j'en sais rien. Enfin, on peut imaginer tout un tas de modifications. Il y a plein de gens aujourd'hui qui ont des hanches en céramique ou des choses comme ça, donc on arrive à imiter dans plein de cas le corps, en fait, et le remplacer des pièces. Mais après,
il y a modification physique et après ton esprit aussi qui...
Ouais, c'est ça, mais je veux dire, il y a une espèce de... Comment... D'idéalisation du corps humain ou de la fonction même de l'humain. Comme quoi on devrait s'améliorer, mais s'améliorer pourquoi exactement? Est-ce que le but de l'humain, c'est de s'améliorer? Enfin, là-dessus, c'est vachement discutable, je trouve, tout ce genre de mouvement. Autant je trouve que la curiosité qu'on peut porter au mécanisme du corps est super intéressante, même d'un point de vue individuel, mais autant je trouve qu'après, il y a des gens qui partent un petit peu en couille, ça devient un espèce de truc à la limite mystique... est très presque religieux, limite sectaire, quoi. Je trouve. Ouais.
Et après, pour rebondir sur Human Needs Not Apply, là, c'est plus en fait. La vidéo commence en fait sur un parallèle entre la voiture et le cheval. Quand il y a eu la voiture qui est arrivée, en fait.
Ça a mis les chevaux au chômage.
Ça a mis les chevaux au chômage et que les chevaux, maintenant, on s'en sert plus du tout. Et on s'en sert juste pour aller faire des tours de manège sur un cheval. Et que de plus en plus, l'être humain, grâce à la robotique et à la mécanisation, tout ça, n'aura plus lieu d'être. Là, on a les Google Cars, les voitures autonomes. Demain, c'est la mort du taxi, c'est la mort de l'ambulancier, c'est la mort des bus.
Et c'est la création aussi de tout plein. Nouvelle façon d'utiliser des voitures, comme la mort du cheval a permis la création des taxis, la création des autobus.
Mais ouais, voilà. Si je peux le résumer en une phrase, je pense que tout le monde connaît, c'est genre l'erreur est entre le clavier et la chaise. C'est-à-dire ouais. qu'en informatique, on dit, enfin, ou quand on intervient chez les gens, on dit souvent ça, l'erreur est entre le clavier et la chaise, c'est-à-dire que l'erreur est humaine. Et en fait, je trouve que l'informatique met en évidence le fait que la majorité des plantages ne sont pas dus à la machine ou au logiciel, mais sont dus à l'opérateur, qui est en fait un homme. Et donc, en fait, ça, du coup, l'informatique met en défaut l'homme. Enfin,
et pour revenir sur la vidéo, et la vidéo insiste bien sur un fait, c'est que la Google Car ou n'importe quel robot, il n'a pas besoin d'être parfait, il a juste besoin d'être meilleur que nous. Donc des Google Cars qui vont se crasher, il y en aura forcément, mais il sera meilleur que nous. Et en fait, ça part de ça, et puis ça va après sur la médecine. Et ben des robots qui connaissent tout le Vidal et qui sont connectés avec tous les autres robots de la Terre et qui analysent tous les cas de patients, aucun docteur ne peut apprendre tout le Vidal et les interactions entre médicaments.
Et donc communiquer instantanément avec un millier de machines réparties sur la globalité.
Voilà. Après, ça englobe aussi tout ce qui est art. Actuellement, quand tu regardes les vidéos, il y a une petite musique qui est sympa derrière. Et bien, il te dit que ça a été fait par un robot. Donc, il y a des robots aussi qui pourront faire de l'art. Et ça fait mal. Mais le truc, c'est comme ça. Et à quel moment... On parle de hasard, mais est-ce que le robot peut créer le hasard? Ça, je sais pas.
Ouais, non, mais on revient à le truc de la discussion tout à l'heure sur la demeure du chaos, tout ça. C'est-à-dire qu'il y a en même temps une espèce de désir d'absolu et de négation de l'être humain, en fait. Enfin, c'est-à-dire que la technique finit par mettre en cause directement celui pour qui normalement elle doit être faite, c'est-à-dire les hommes qui sont derrière, et on s'aperçoit que justement cette théorie peut aussi pousser finalement à la conclusion du fait que c'est l'homme l'erreur dans le beau système mis en place qui est parfaitement huilé, qui tourne très bien. On se rend compte que enfin, à mon avis, en faisant trop confiance à la technique, on se rend compte que c'est finalement l'homme l'erreur, alors qu'en fait, on était censé au début faire lui rendre un service, en fait. C'est ça qui est paradoxal, en fait.
Et après, juste, je finis, après, il faut que j'y aille. C'est que cette vidéo, c'est, je sais plus qui ça avait dit, en fait, il y a un point qui, sur Human Need Not Apply, c'est que ces robots, il faut bien les financer et il faut bien qu'ils produisent des choses que les gens puissent acheter. Donc, qui va avoir les robots, donc l'argent, et comment les gens vont pouvoir acheter les services de ces robots, tu vois ? Et c'est là où, s'il n'y a personne pour consommer, s'il n'y a personne pour travailler, pour gagner de l'argent, qui va bien pouvoir consommer, quoi. Voilà, c'est tout.
Coupure musicale.
Alors, on a un texte d'Alex, peut-être que...
Pas d'Alex,
d'un traduction d'Alex.
Hein. Qui s'appelle... je ne me souviens plus de son prénom. Mais c'est un texte que j'ai vu passer cette semaine. Et c'est un essai d'une première série de rapports de la NOR, donc c'est une enquête, sur la paranoïa, l'électromagnétisme et l'infrastructure.
James Bridle, pardon.
James Bridle. Ok, donc il y a son texte qui est en ligne et j'ai fait la traduction en français afin qu'on puisse un peu plus en parler. C'est Sacha qui va faire la traduction.
Sacha, il fait la voix off.
Je fais la voix off, ouais. Alors, dans la matinée du 30 octobre 2014, je me mis à marcher sur le périmètre de la zone payante de congestion londonienne. C'est un péage pour les véhicules qui veulent circuler dans le centre de Londres. Un voyage d'une vingtaine de kilomètres autour du centre-ville. Je commence à King Cross, suis Windsor, sur la route de Stone vers Paddington. À son extrémité occidentale, la zone tourne à Edward Road, vers Park Lane, Grosvenor Place, Vauxhall Bridge Road, afin de tourner à nouveau en traversant la Tamise vers Elephant Castle, Tower Bridge, Spitalfields, Shoreditch, et revient à King Cross par la City Road. Pour des raisons qui deviendront plus claires, je ne termine pas cette promenade dans la journée. J'ai cependant documenté la partie sur laquelle je me suis engagé, en gros la moitié du trajet, sous la forme de 427 photos de caméras de vidéosurveillance. J'ai photographié chaque caméra que je vis, c'est celle qui pouvait me voir, à considérer que c'est comme une sous-estimation du nombre total de caméras. Vous pouvez explorer toutes ces photos sur son Flickr et sur une carte interactive qu'il a mis en ligne. La zone de péage urbain couvre la zone délimitée par le troisième mur de Londres. Ce mur poursuit la transformation entamée par le deuxième mur, un mur physique, une entité électromagnétique. Il est composé de bits d'électrons, d'ondes radio, et il est de moins en moins visible, même s'il devient de plus en plus omniprésent. Le premier mur de Londres a été construit par les Romains à la fin du IIe siècle, en réponse à une crise politique. Après l'assassinat de Pertinax en 193, l'année des cinq empereurs, l'Empire éclate en guerre civile. Claudius Albinus, gouverneur de Bretagne et allié à Septime Sévère, commandant des troupes en Illyrie et Pannonie, qui bientôt se retourneront contre lui, se proclame empereur avec le soutien des légions de Grande-Bretagne et d'Espagne. Quand Albinus échappe de justesse à un assassinat par l'un des messagers de Severus en 196, il se met à la tête d'une armée forte de 150 000 soldats et ordonne la construction de fortifications autour de la ville de Londres. Albinus n'a pas duré longtemps. Il navigue vers la Gaule et il a rencontré l'armée de Severus à Lugdunum, qui est Lyon aujourd'hui. Rapidement, il est vaincu et décapité, son corps jeté dans le Rhin et la tête envoyée à Rome comme un avertissement à d'autres usurpateurs. Les Romains et leurs successeurs continuent la construction et la fortification du mur durant les 1000 années suivantes. Renfermant 330 hectares, ce mur force tous les visiteurs à passer à travers 7 portes étroites qui relient la ville du réseau romain. Après le Blitz, pendant la Seconde Guerre mondiale, les fragments du mur sont parmi les seules structures encore debout dans la ville. Et l'on en trouve encore des morceaux au Barbican et Tower Hill. Le deuxième mur a été érigé quelques 1800 années plus tard, sur les ordres de la police de la City de Londres. Après le bombardement, les explosions à Baltic Street en 1992 et Bishopgate en 1993. Plutôt que de la pierre du Kent, qui compose la première paroi, le deuxième mur est composé de guérites et de barrages routiers, avec des rues à accès réduit, des chicanes pour ralentir les véhicules à des points de passage obligés. Comme pour la refonte de Oxford Street après les émeutes de Gordon en 1780, et contrairement à la stratégie haussmannienne à Paris, Londres prône l'utilisation de la congestion comme un outil de contrôle de l'État, qui est fidèle à la nature sclérotique de la ville elle-même. Le deuxième mur, communément appelé l'anneau d'acier, prolonge seulement légèrement au-delà de la limite du premier mur, désigne de nouveaux lieux de valeur, les tours de la finance mondiale, qui sont largement contigus avec les anciennes formes de richesse et de pouvoir. En 2003, après les attentats du 11 septembre à New York, mais précédant les attentats du 7 juillet 2005 à Londres, la police a décrit la probabilité d'une attaque terroriste sur la ville comme inévitable et élargi la bague légèrement. Mais depuis les attentats de 1996 et les explosions à Dockland, il a été à la fois évident et inévitable qu'un mur physique statique ne serait pas suffisant. Au lieu de cela, le mur doit se développer et se diffuser. Tout comme son prédécesseur, le deuxième mur est toujours debout, mais il a été entièrement englobé dans les territoires du troisième. Ses guérites sont souvent laissées vacantes, ses portes laissées ouvertes. Ses composants fonctionnent en permanence, ses caméras vidéo forment un noyau de traitement interne, renforçant ceux de son successeur. Le troisième mur, celui qui entoure la zone du péage urbain, a été achevé en février 2003. Et a étendu la zone traditionnelle du mur au quartier financier de Square Mile dans le West End, au quartier commercial et de divertissement. De cette manière, il en résulte de manière prévisible, et certes un peu tardivement, l'expansion du capitalisme lui-même dans le domaine de vie de tous les jours. La technologie de base du troisième paroi est automatisée, imaginée, mais seulement partiellement mise en œuvre dans le deuxième mur, la reconnaissance des plaques d'immatriculation, ou ANPR. L'installation de plus de 800 caméras ANPR permet d'enregistrer l'identifiant unique de chaque véhicule qui entre dans la zone dans de vastes bases de données pour une analyse ultérieure. Lorsque le mur a été initialement construit, le public a été informé que ces données ne seraient tenues et régulièrement purgées que par l'Office de Transport de Londres.
Je continue. Donc l'Office de Transport de Londres, qui supervise les questions de circulation dans la ville. Cependant, en moins de 5 ans, le ministère de l'Intérieur a donné l'accès à ce système à la police métropolitaine, qui leur a permis de prendre une copie complète des données produites par le système. Cette autorisation d'accéder aux données a été accordée à la police à la seule condition qu'ils ne l'utilisent que quand la sécurité nationale est menacée. Mais depuis que les données sont maintenant en leur possession, la police a tout reclassé comme des données criminelles et peut maintenant utiliser ces données, malgré le libéré de l'autorisation initiale, pour des questions générales de police. Et donc non plus uniquement comme en tant que sécurité nationale. Donc comme ces données ne sont pas considérées comme des données personnelles dans la définition de la loi, la police n'est pas tenue de les détruire et elle peut les conserver. Elle peut conserver ses registres permanents de tous les mouvements des véhicules dans la ville aussi longtemps qu'il le désire. Les caméras ANPR qui opèrent sur, dans et au-delà des limites de la zone de péage urbain capture plusieurs données à la fois sous deux formes. La première est l'information brute, le numéro unique de la plaque du véhicule, la date et l'heure de la prise de vue et l'emplacement. Ça, c'est des métadonnées. La deuxième sont des images, donc une image recadrée de la plaque elle-même pour soutenir l'automatisation de la lecture des plaques, et une image plus large de l'ensemble du véhicule au moment où il est suivi, ce qui peut également inclure d'autres véhicules à côté. Ça peut inclure aussi la route, le conducteur, les passagers, les passants. L'abandon progressif des guérites de l'anneau d'acier et leur remplacement par les yeux et l'esprit du système NPR automatisé sont en miroir, hors de la vue, par le remplacement des pièces des observateurs avec des bases de données et des cartographes avec les systèmes LIDAR au sommet des voitures. Alex,
LIDAR, c'est les, LIDAR, c'est ce qu'on utilise sur les Google Cars, par exemple.
D'accord, pour se déplacer en ville. C'est le système de captation.
Ouais, c'est un laser qui tourne super vite.
D'accord. Ah, mais c'est, le LIDAR, c'est un scan 3D, en fait ?
Non. Ouais, c'est un radar, radar laser.
Ok, d'accord. Je continue ou tu continues ?
Je peux continuer.
Okay.
Au sommet des véhicules et capteurs de bord de satellites aux orbites terrestres basses. Robots, drones de surveillance et systèmes visuels fonctionnent en continu, au-delà de la plage d'intérêt et d'endurance humaine. Et ils fonctionnent toujours d'en haut, en leur donnant le privilège de surveillance. Les images de surveillance sont toutes des images d'avant, dans le sens avant et après. Le après peut être quelque chose comme un tremblement de terre, une émeute, une protestation ou une guerre. Tout système tributaire de flux, qui est l'ensemble des réseaux de trafic de véhicules jusqu'à l'offre de flux de vidéos Internet lui-même, enregistre les perturbations dans le même contexte moral négatif. Ces images de surveillance atteignent le statut de preuve pour des crimes inconnus au moment où ces images sont créées, en attendant seulement l'identification du crime au moment où elles ont été créées. L'image automatisée criminalise son sujet. Le soupçon est une variable globale. Une fois déclenché, il remonte à travers l'ensemble du système. En marchant dans Park Lane, je fus accosté par un homme en costume qui a exigé de savoir ce que je faisais. Il a sorti son téléphone portable et a pris en photo mon visage. Et il m'a dit qu'il allait faire circuler ma description. Peu de temps après, un de ses collègues me retint physiquement et appela la police. Les deux hommes travaillaient à l'hôtel Gusmerner House, dont les caméras se tournaient vers moi pendant que je marchais et sont donc incluses dans ma documentation. Quand ils sont arrivés, les policiers ont expliqué que la position d'une caméra à proximité du centre de Londres était un motif de suspicion. Je pourrais être un terroriste qui représentait une menace pour les bons citoyens de Londres, ma propre ville. De même, je pourrais être en train de documenter la situation pour un futur crime, étudier les défenses afin de mieux les contourner. Porter un appareil photo ainsi a justifié les soupçons des gardes de sécurité qui m'ont arrêté et exécuté une arrestation citoyenne. J'arrive, Sacha. On peut faire une petite pause musicale, je pense, comme ça.
Ouais, Sacha a besoin que son papa le garde.
Et voilà. Et donc c'était Shovel Knight, un petit jeu de chevalier avec équipé d'une pelle, qui est un jeu de plateforme sur PC et Nintendo DS.
Et Sacha a même presque chanté presque.
Et ouais, il va pas tarder à chanter. Ouais, je pense. Voilà. Tu continues à lire l'article, Sacha?
Ouais.
Alors.
Tu veux le lire, Alex? Je sais
ouais,
pas où c'est.
On
que
est
t'en
sur, là où il se fait arrêter. Peu de temps après, porter un appareil photo a justifié les soupçons des gardes de sécurité qui m'a arrêté, exécuté une arrestation citoyenne, en me retenant jusqu'à l'arrivée de la police. Cette suspicion, à son tour, justifie les actions de la police, qui m'a menacé d'arrestation si je ne m'identifiais pas ni expliquais mes actions. Pour le port d'un appareil photo, on m'a dit que je pouvais être amené au poste et accusé de m'équiper. Une disposition de la loi de 1968 sur le vol qui détermine la peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 3 ans pour toute personne transportant du matériel qui pourrait servir à commettre un cambriolage. Bien sûr, la menace des policiers était tout à fait sans fondement. Bien sûr, l'utilisation de caméras en public, comme dicté dans de nombreuses déclarations de la police métropolitaine eux-mêmes, ne sont pas et ne doit pas être interprétée comme un crime. Mais, comme quelqu'un qui a déjà rencontré la police dans une situation analogue, la loi est loin derrière l'exercice du pouvoir lui-même. Le quatrième mur de Londres utilisera les transpondeurs des véhicules. Diverses formes sont déjà laissées aux États-Unis, comme le système EZ-Pass qui a migré des ponts et des tunnels à péage pour sortir dans l'agglomération où le passage des véhicules est suivi par des ondes radio. L'introduction de ports de diagnostic dans les véhicules a conduit à l'adoption de moniteurs de consommation qui transmettent également les données de géolocalisation, comme le font de nombreux systèmes GPS communs. Ces systèmes seront bientôt officialisés dans la plateforme eCall, qui sera obligatoire dans tous les véhicules neufs d'ici la fin de l'année 2015. Le développement et le déploiement ANPR itinérant est également considéré installé sur les véhicules de la police et bientôt les véhicules de la mairie. Enfin, le mur perd toute définition physique, devient une zone vraiment omniprésente, plutôt qu'un obstacle fixe.
Je continue. Okay. Comme l'intentionnalité de l'image de la caméra disparaît dans l'automatisation, le mur devient éther et obscur, l'image se dissout, remplacée par des données. Les caméras ne voient plus en image, mais enregistrent et traitent l'information. La chaîne de nombres sur une plaque d'immatriculation de voiture, les dimensions d'un visage humain, le numéro IMEI d'un téléphone mobile, la réflectivité infrarouge de plantes, la profondeur, la tonalité des voix. Quand viendra le cinquième mur, le système, qui contenait autrefois des capteurs humains réels, des hommes avec des lances en haut des remparts, va retrouver la capacité de voir les individus. Au début, cela ne se fera par l'intermédiaire de suivi téléphone mobile, qui est également déjà présent dans la zone. Le rapide arrêt par la ville de Londres des poubelles espions qui suivaient les mouvements des passants dénoncent la généralisation de la mise en œuvre actuelle du système dans les magasins et les zones commerciales à travers la ville qui suit en permanence les mouvements des consommateurs et des passants. Dans le même temps, les systèmes de caméras déployés dans les aéroports et dans les confins de la zone ont déjà développé la capacité à lire sur les visages humains les iris, les expressions et les allures, exactement de la même manière que leurs prédécesseurs à ANPR, et construit une base de données stockée de profils uniques. Alors qu'il est toujours amusant de penser de la façon dont ces systèmes pourraient être éludés, par l'utilisation de masques ou de maquillage. Il convient de noter que l'article 60A de la loi sur la justice pénale et l'ordre public de 1994, déployé dans le centre de Londres dans la nuit du 5 novembre 2014, donne à la police le droit de définir une zone dans laquelle toute personne refusant de révéler son visage peut être emprisonnée pendant un mois.
La partie, le 5 novembre 2014, il y a eu une grosse marche à Londres avec tout plein de gens qui étaient déguisés en Anonymous. Et donc, toutes ces personnes pouvaient être arrêtées vu qu'elles étaient dans cette zone définie par la police.
Ouais. Donc, en fait, chaque mur ainsi que le mur abstrait dans sa totalité est un modèle miroir des processus sociaux. Le troisième mur est le produit naturel de l'expansion des systèmes financiers et des logiques du secteur bancaire dans tous les autres systèmes. Et le quatrième mur aborde la mécanisation de la chaîne d'approvisionnement et de domination de systèmes logistiques, de sorte que le cinquième va de pair avec la privatisation en pleine expansion de l'espace public. La dernière arme déployée contre la volonté persistante des Londoniens pour leur liberté, pour liberté dans la vie urbaine. Donc je continue, Alex, ouais. Je finis ma promenade à Vauxhall car ma détention sur Park Lane m'avait coûté la plus grande partie de l'après-midi. J'espère contempler la marche à une date ultérieure.
La décision d'arrêter a été faite comme il se doit dans l'ombre de Vauxhall Cross, le siège des services secrets MI6. La tache rouge flamboyante sur la carte indiquant une concentration de caméras est représentée par ce moins et par la beaucoup plus par le beaucoup plus mystérieux bâtiment à 1 rue Bessborough Gardens de l'autre côté de la rivière, impassible, orné de caméras dont les voisins se plaignent régulièrement d'interférences électromagnétiques.
Donc par rapport à ce bâtiment, c'est un bâtiment qui a été racheté par l'État et qui a demandé l'installation de plusieurs paraboles satellites. Mmh. Et donc qui est assez secret comme bâtiment, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais c'est juste en face du MI6, donc on pourrait imaginer que c'est une station satellite juste installée là-bas.
Donc pour contraste, on voit la pénurie statistiquement peu probable de caméras affichées dans la zone sud de la Governor Park Hotel, sur la moitié inférieure de Park Lane. Bien sûr, il n'y a pas moins de caméras, c'est une zone à haut risque, un espace attrayant pour les fouleurs et les terroristes, mais quand vous avez été maîtrisé physiquement par des hommes blancs en costume et menacé par des policiers, vous voulez vraiment juste sortir de là aussi vite que possible. Donc lorsqu'on vous ennuie après avoir regardé des caméras, vous arrêtez de regarder des caméras. Mais vous devriez vraiment être regardant sur ces caméras. Il y a une expression pour ça d'ailleurs, je me permets une divagation, mais c'est observer les observateurs, ou c'est watch the watcher, je sais pas, c'est un truc comme ça, je crois.
Le truc de surveillance, surveillant.
Ouais, surveillons les surveillants. L'une des caractéristiques du mur qu'il n'est pas.
Et qu'il ne peut pas être volontaire.
Vas-y, bah, continue Alex, okay. Si Sacha.
Bien que certaines des stratégies énumérées ici sont basées sur la coopération avec le système du mur, tachomètre, la navigation, les applications de check-in, les moniteurs de conditionnement physique et les ordinateurs portables, ce sont toujours l'accompagnement ou l'introduction de systèmes obligatoires et sont mieux vus comme électives, essais inter-élaboratoires plutôt qu'une adoption anticipée ou une perturbation individualiste. Chaque mur successif est seulement mis en place lorsque les nouvelles technologies et systèmes sociaux émergents ne dépendent plus du consentement. On peut imaginer des trucs comme Facebook ou des choses comme ça. Le système mur sera construit à partir des choses que vous portez sur votre corps ou que vous disposez sur les étagères de votre chambre. Nest, QOL, You, Automatique, Smart TV, Happy Fork, Vessel, Autographe, Memento, Google Glass, Dropcam, Jawbone, Fuel, Weavin, Fitbit, HealthKit, tout ce qu'on trouve à la FNAC. Petit policier dans votre poche, petit policier sur votre peau. Le sixième mur sera fait de poussière intelligente qui se dépose dans les plis de vos vêtements, communique votre position et votre fréquence cardiaque à des satellites en basse orbite. Les citoyens de Londres pourront rêver et les images de leurs rêves vont danser sur les télécrans de Piccadilly Circus, pris en défaut. Mmh. Voilà, donc c'est une série d'articles, ça c'est le premier, il va sortir deux autres articles. Je vous conseille d'aller suivre ça.
Mais disons que ça met en perspective effectivement la géographie en fait de la société
et de la surveillance s'étend et qui disparaît dans des électrons
Je trouve que ouais, effectivement c'est en fait c'est, il parle d'une espèce de géographie perçue en fait et d'une dématérialisation des systèmes de surveillance en fait. Mais effectivement il est assez je trouve dans la gradation qu'il fait c'est intéressant historiquement
le côté historique des différents murs Voilà, donc canadsud.tetala.org si vous voulez retrouver le lien pour télécharger l'article ou commenter l'article et tout ça. On va passer à l'agenda
Dans l'agenda,
il y a demain soir, il y a le Drink and Draw Speakeasy. Drink and Draw, des fois, il y a Guillaume et Vince qui sont là pour participer à l'émission. Et ça aura lieu au Speakeasy sur le thème tatouage. Donc, c'est une soirée dans un bar où on passe son temps à dessiner. Et le 5 au 7 décembre, on part avec Florent qui était là tout à l'heure à Vienne pour Robo Exotica. C'est un concours de robot cocktail qui a lieu tous les ans depuis 15 ans. Et on amène le Barbabot, c'est un robot créé par le Tetalab, dans ce concours de robots cocktails. Tous les mercredis soirs, à Mixart Miris, il y a le Tetalab qui se retrouve.
À 21h.
À 21h, voilà, où tout le monde est bienvenu.
Hier, on a fait la crémaillère de mon nouvel atelier. Voilà.
Pire qu'un nouvel atelier à Mixart Miris.
C'est sympa.
Il y a du monde.
Ouais, on va peut-être changer aussi, bon, c'est en discussion, mais le TETAP va peut-être changer de locaux. On va peut-être finir par se motiver pour agrandir notre espace et pour accueillir plus de monde dans des conditions plus agréables pour tout le monde. Quoi.
Avec un peu de ménage.
Avec un peu de ménage.
Et voilà, et on se retrouvera le mois prochain, soit le 4 juste avant de partir à Vienne, soit la semaine d'après, pour vous parler de ce concours de robots cocktail.
Ah, merci messieurs. Oula.
Sacha est tombé. Ah là là, j'espère qu'il s'est pas fait trop de bosse.
Bon, on retrouve quand alors ?
Eh ben, sûrement le 4 décembre.
D'accord.
Et voilà.
Ça marche.
Ou le 11, peut-être, on verra. Bon.
Allez, bah, c'est l'heure d'envoyer le générique de fin. Voilà, prochain rendez-vous du magazine demain midi. Alors, avec peut-être Nicolas Stanzik, si on a le temps de la monter, l'interview. Parce qu'il est long, le bonhomme. C'est un bon client, comme on dit, hein, très bavard. Et puis, bah, au pire, on aura une interview avortée, celle donc de Rachid Nougmanov, donc cinéaste indépendant et on va dire pierre angulaire de l'underground russe, ou plutôt kazakh, voilà, parce que c'est quelqu'un qui était soviétique, qui a été soviétique et qui est devenu kazakh. Voilà, et qui présentait deux films à Extrême Cinéma, donc L'Aiguille et The Wild East, le plus intéressant des deux, enfin encore que, puisque dans le premier on retrouvait Victor Stoï, donc chanteur, on va dire, fer de lance de la musique underground russe, et d'un autre côté, The Wild East est un, bon, comment on va dire ça, une relecture, allez on va dire ça comme ça, une relecture des 7 samouraïs de Kurosawa retransplantés dans les steppes de Russie, le tout matiné de Mad Max, mais sans moyens, et avec des acteurs non professionnels, voilà, bon. Allez, sur ce, ben, le générique.